vivrons-nous demain ? Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Où vivrons-nous demain, c'est le titre de l'émission. Alors pour ceux qui pensent que je vais faire de la divination, que l'on va découvrir quel est notre futur, il faut dire que cet exercice est assez commun de nos jours. Eh bien, ceux-là seront déçus parce que effectivement, je dois vous dire que ce titre est un peu ironique. Alors, l'histoire de ce titre, il s'agit d'un ouvrage qui s'appelle Où vivrons-nous demain, et qui traite justement des sujets d'urbanisme et d'architecture, qui a été écrit, je pense qu'il a été publié en 1964, vous voyez, ça fait déjà fort longtemps, par un écrivain qui s'appelait Michel Ragon, qui est mort d'ailleurs très âgé il n'y a pas très longtemps, presque centenaire. Et c'était un homme qui, dans ces années-là, était quelqu'un de très connu. Il était bien qu'issu d'une famille très modeste, il avait eu ses galons d'écrivain, de poète, de critique d'art, ce qui n'est pas rien, et notamment de critique en architecture, où il était une personne importante dans ces années, on peut dire, des années de l'après-guerre. Donc, ces années étaient toutes, on peut dire, influencées par le futur et les nouvelles technologies. Et ce livre proposait des villes flottantes, des grandes structures métalliques qui permettaient d'avoir des villes surélevées du sol et également de grands dômes, ce qu'on appelait les dômes géodésiques qui mettaient les villes à l'abri des intempéries et on peut dire que tout cela était dans un optimisme total sur la technologie. Donc il n'y avait absolument pas, contrairement à notre époque aujourd'hui, qui a des scénarios futuristes qui sont au contraire plutôt apocalyptiques et négatifs sur la montée des eaux, sur la pollution, sur les migrations climatiques, et j'en passe. Enfin, tout le monde entend cela. Alors on était à l'opposé dans une sorte on peut dire d'une vision assez infantile peut-être, mais d'un monde de science-fiction tout à fait heureux. Alors effectivement, la technologie était, on peut dire, au centre de ce discours. Aujourd'hui, on voit l'effet inverse, c'est-à-dire que la technologie est vue aussi comme un véritable danger, mais on peut dire que les deux optiques négatives ou positives ont en commun, c'est que la technologie échappe à l'homme. Alors vous voyez aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on a cette vision qui est très angoissante. Là même ce matin dans les journaux, Le Figaro, Libération, etc. On parle de la régulation de l'intelligence artificielle qui est vécue par les uns comme un progrès signifiant et puis par d'autres par un véritable danger sur l'intelligence humaine, sur nos civilisations. Alors, je vais faire ce qui me paraît essentiel comme mise au point en préalable, c'est la différence qu'il y a entre science et technologie. Et là, je pense qu'il y a une erreur qui est fondamentale, me semble-t-il, entre science et technologie qui sont assimilées. La science et la technique, c'est quelque chose qui aujourd'hui est totalement lié. Donc, ça veut dire que la technique échapperait, elle serait une sorte de phénomène indépendant qui échapperait aux humains et le rôle de, on peut dire, du politique ou des associations, c'est de se parer contre cette technologie qui avancerait toute seule et qui mettait en danger l'homme. Alors, vous savez, c'est vieux comme le monde, l'homme dépassé par la machine qu'il crée, je pense on trouve ça jusque dans les mythes de l'Antiquité. Mais on n'est pas, et ce n'est pas là le propos. Donc, le propos fondamental, c'est que la science est cumulative. Alors, je m'explique. La science est indépendante de celui qui la trouve, puisqu'elle peut être expérimentée et répétée. Donc les scientifiques sont des découvreurs d'une réalité, qui est la réalité de notre monde. Et cette réalité-là, elle n'est pas cyclique, elle est cumulative. Par exemple, la rotondité de la Terre, qui est quelque chose, contrairement à ce qu'on en croit aujourd'hui, où on traite de platistes tous ceux qui mettent en cause la science, bon, c'est quelque chose de très ancien, mais par exemple, quand Galilée, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'est pas lui qui a découvert que la Terre était ronde, parce qu'on le savait déjà, la preuve, même quand il y a eu les voyages de Christophe Colomb, il pensait bien que la Terre était ronde, puisqu'il il pensait rejoindre les Indes par l'Atlantique, ne sachant pas qu'il y avait le continent américain, et c'est pour cela qu'on appelait les Indiens les Amérindiens. Bon, je ferme la parenthèse. Mais ce que je voulais dire, c'est que la découverte de Galilée, elle est à ce moment-là une découverte, et c'est vrai qu'elle remet en cause la Terre comme centre de l'univers auquel tout tourne autour. Et donc, Galilée trouve que, justement, la réalité, c'est que la Terre tourne autour du Soleil avec les planètes. Donc, c'est une rupture fondamentale avec la croyance de Dieu qui avait créé l'homme, la Terre et l'univers qui tournait autour. Et là, on se trouve pris dans un système planétaire, stellaire, qui n'a fait que se complexifier avec la connaissance que l'on a eue par la suite et que l'on a aujourd'hui avec les télescopes et avec les satellites, etc. Et donc, ce sont des découvertes cumulatives. Mais pourquoi je vous cite Galilée ? Parce que ça a remis en cause, justement, l'Église et la position que l'on avait du rapport de l'homme avec Dieu. Donc, c'est une découverte qui n'était pas, pour l'esprit de l'époque, quelque chose qui était... ou plutôt, on peut dire que c'était quelque chose qui était douloureux. Donc, c'est la première blessure narcissique, on peut dire, des découvertes de la science. Et donc, la science, elle est cumulative et quelque part un peu indépendante de l'histoire. Et elle peut être, à des moments comme, je vous cite l'histoire de Galilée, elle remet en cause les systèmes de croyance et les systèmes de pouvoir, mais elle peut être aussi accompagnée, mais c'est, comme je vous disais, cumulatif. Alors, la technique, elle va suivre, évidemment, elle va s'appuyer sur la science, par exemple, les découvertes du XXe siècle s'appuient sur la maîtrise de l'électricité. Bon, l'électricité, elle existe avant, mais c'est Edison qui arrive à la maîtriser, et puis, à partir de cela, les techniques vont arriver. Mais en fait, la technique, qu'elle soit ces technologies de pointe, mais comme on peut avoir les techniques du bâtiment, il y a des techniques très savantes, par exemple en céramique et autres, qui étaient extrêmement complexes et qui n'ont pas été aujourd'hui que on a perdu justement ces techniques. Donc il y a au niveau des techniques, on n'est pas dans le cumulatif, on peut avoir des techniques qui ont été oubliées. Et si effectivement nous apparaît, suite aux découvertes scientifiques du 19e siècle, être dans l'ère de la technique, c'est toujours relatif parce que on n'utilise que les techniques que l'on a besoin. Alors, c'est là le point important, c'est que ce ne sont pas les techniques qui modifient les sociétés, ce sont les sociétés qui vont produire les techniques dont elles ont besoin. Alors ça, c'est quelque chose, je crois, qui n'est pas partagé par tout le monde, mais pourtant qui me semble une évidence. Je vais citer plusieurs exemples. Par exemple, la machine à vapeur. Ben, la machine à vapeur, elle aurait pu être créée dans l'Antiquité. On avait, par exemple, les Romains, mais même les civilisations avant les Romains, on faisait, par exemple, il y avait des fonderies de bronze avec des techniques très élaborées de four, etc. Et on connaissait d'une manière évidente ce que Denis Papin avait découvert, c'est que la pression de la vapeur, est une force. Mais pour des raisons de cette époque, c'est des choses que l'on ne voulait pas avoir. C'est-à-dire qu'en fait, la machine n'était pas nécessaire pour une société qui était bâti sur la force de travail des hommes. Alors, dans le cadre de l'Empire romain, par exemple, c'était quelque chose d'assez évident, parce que c'était un empire qui vivait pour une grande partie de ses conquêtes, et ces conquêtes étaient faites par des armées, et des armées qui ne se battaient pas évidemment tout le temps, et on l'occupait dans des grands travaux, et donc cette main-d'œuvre était nécessaire. Bon, c'est pareil pour l'Égypte, et toutes les civilisations. Par contre, quand il y a une société avec un changement d'organisation sociale, effectivement, et c'est le 19e où effectivement le servage n'existe plus, et on peut dire le tiers-état après la Révolution, donc on a besoin d'avoir des forces mécaniques pour remplacer la main-d'œuvre humaine. Voilà, si vous voulez, mais on pourrait l'étendre à d'autres inventions, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors, bon, voilà, on va marquer une pause musicale, et puis je reprendrai le propos sur ce rapport science et technique et le rapport que l'on a avec l'urbanisme notamment.
Ljuts bilgadlar helgar kindi Mair jag min i Mölheimdalar Vilt vad eg val föder vil fyrtälja Vara sannur njö sær njö svala haunni Jörð var eigi njö upphýmin Gopp var ginnunga en grås vergi skog bönen värdas. Någon ses strångar, ser vi om spedlat. Skalver ygdras ils ask standande.
Donc j'étais en train de vous parler donc de ce rapport entre la technique et la science et le domaine qui est le domaine de l'urbanisme, de notre donc de notre cadre de vie et de l'architecture n'est pas forcément en relation directe avec les découvertes scientifiques. Donc aujourd'hui, on a une sorte d'injonction de dire, du moment que nous avons ces progrès, il faut être en parallèle. Donc on aurait on vivrait dans des capsules comme celle que l'on envoie dans l'espace. Et tout ça est un peu ridicule, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, le livre qui a inspiré le titre de cette émission « Ouvrez-vous-nous demain », on se rend compte que les choses n'ont pas beaucoup changé. Donc en fait, ce qui me paraît assez important, c'est de voir beaucoup plus une question de cycle. Et dans le cas de notre environnement, on est sur deux cycles fondamentaux. Un qui est la modification du territoire les villes et une organisation qui est plus orthogonale. Et on voit le cycle de l'histoire qui est celui-là. Par exemple, je vous parlais des Romains, c'est manifeste, les Romains dans leur empire remplacent les civilisations qui sont des civilisations, on peut dire, communautaires, de cercles, avec des habitats qui sont plus fragiles, mais en tout cas qui ne changent pas d'une manière aussi radicale que celle des Romains, avec leurs plans en damier et leurs aqueducs, leurs modifications d'aplanir les collines pour bâtir ou tracer des routes qui modifient le territoire. Donc, la grande mutation dans le « Où vivrons-nous demain ?», c'est le tournant du 19e siècle, où on a vu à ce moment-là la fin, on peut dire le champ du cygne de la ville rectangulaire et le remplacement par l'espace que nous avons aujourd'hui. Le remplacement, pas vraiment, puisque les villes anciennes continuent à exister dans la mesure effectivement où on ne les démolit pas, mais les nouvelles implantations, on peut dire que sont totalement différentes et on est dans une forme qui n'est plus cette concentration en un lieu de toutes les activités du logement, comme les activités économiques, industrielles, etc. Mais on est sur une dispersion des activités, mais aussi dispersion du logement. Donc, c'est ça la modification, et c'est pas une modification qui est dans un progrès ou dans un recul, c'est-à-dire ce n'est pas ça. C'est-à-dire que c'est notre cycle, et ce cycle, comme nous y sommes dedans, on a du mal à le percevoir comme tel. Mais donc, il ne s'agit pas de mettre un jugement moral en disant c'était ceci plus moral que cela, mais c'est évidemment la tentation que l'on a. C'est-à-dire qu'en fait, on est passé d'une position qui était modifiant le territoire Et pour prendre un exemple clair, par exemple, les civilisations, on peut dire, justement, de modification du territoire, quand elles avaient des marais, par exemple, on asséchait les marais parce que les marais étaient vus comme de la pollution, comme des miasmes, et c'est une vérité aussi, amenant des maladies, bon, le paludisme, etc. Et aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tout ce qui va être zone humide sont protégés pour la biodiversité. Donc, on a sur la même chose deux regards différents. Alors, si on se positionne d'une manière morale, chaque fois on va avoir une position morale, mais au final, il s'agit simplement d'un point de vue vu d'un côté par rapport à un autre. Donc, on peut à la fois défendre la biodiversité et le maintien de ces états, on peut dire naturels entre guillemets, mais aussi on peut dire on a besoin de modifier ces espaces pour l'agriculture et effectivement pour éviter ces zones, par exemple pour parler des marais, ces zones humides sont porteuses de maladies et c'est aussi une réalité. Donc aujourd'hui nous sommes dans beaucoup plus justement cette vision morale, et ce que je voudrais c'est que en ce début d'année qu'on ait cette vision un peu plus relativiste et de ne pas mettre le bien et le mal d'un côté, sachant que il faut certainement trouver des compromis et accepter les deux, accepter les alternances. Il s'agit pas de parler du en même temps. Il s'agit simplement d'accepter qu'il y ait des parties qui soient ainsi et d'autres parties qui ne soient pas de la même manière. Donc, effectivement, tout ce qui va être des positions radicales comme les émeutes contre les bassines, ça demande beaucoup plus de réflexion, et je crois qu'il faut se garder de ces emballements, on peut regretter que l'écologie, qui est une vision intéressante, puisse être aussi radical. Alors, pour revenir sur les technologies de notre époque, j'avais parlé de l'intelligence artificielle en tout début de ce propos, mais j'avais dans d'autres émissions également parlé de l'intelligence artificielle. C'est un sujet que je ne peux pas éviter aujourd'hui. Alors, pour le remettre dans le processus dont je vous parlais de cette mutation, où on passe d'une vision de la ville dense et il faut mettre aussi dans cette civilisation de la ville qui modifie le territoire le livre, parce que le livre, il a besoin de bibliothèques, et c'est on peut dire, la ville, le bâti, l'architecture, et le livre qui vont avec, et aussi une forme de société beaucoup plus statique. Dans l'autre modèle, qui est le modèle de la dispersion dont je parlais aussi, donc que je positionne à la fin du 19e siècle et qui se développe pendant le 20e siècle, évidemment avec notre 21e siècle qui a déjà bien démarré, eh bien, ce passage, c'est le passage vers une civilisation dispersée et une civilisation où le livre va être remplacé par la parole. Donc, on voit arriver au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, l'émergence du téléphone, des premières communications, et puis au cours du 20e siècle, bien évidemment, il y aura la radio, le cinéma, tous les médias, et aujourd'hui, toutes les formes, la naissance d'Internet également à la fin du XXe siècle et aujourd'hui avec les prolongements des choses qui d'ailleurs n'avaient pas été prévues par les futurologues. C'est pour ça que quand je mets sur un mode ironique où vivrons-nous demain, je pense que tout cela n'avait pas été prévu. On était au contraire dans une vision cumulative des machines et des tuyaux. Souvenez-vous du film Brazil, où on voit De Niro en plombier volant dans un immeuble qui est un immeuble d'Abraxas là, de Ricardo Bofi dans une espèce de montagne de tuyaux et de câblage. Et on avait prévu donc dans à cette époque-là, cette époque qui est pas si lointaine, qui est juste quelques décennies, on avait prévu un monde câblé. Moi, le premier, d'ailleurs, j'avais fait des pensées qu'allait y avoir des doubles planchers dans les maisons, et on parlait de domotique. On n'en parle plus aujourd'hui, et on pensait que l'on allait vivre dans des câblages. Et tout d'un coup est arrivé le Wi-Fi. Et ça, personne ne l'avait prévu. On pensait que on allait avoir de plus en plus de machines autour de nous. Et qu'est-ce que l'on a ? On a le Wi-Fi et un smartphone qui est à la fois un enregistreur, une caméra et un agenda et une lampe torche. Enfin, toutes les possibilités dans une toute petite machine. Et attendu que ce que l'on croyait, c'est justement l'invasion de tous les produits technologiques. Et au contraire, on a le phénomène inverse. Et je le répète encore une fois, on ne l'avait pas du tout prévu. Donc, pour revenir, et ça va être la conclusion de cette émission, c'est sur l'intelligence artificielle. Je vais citer quelque chose de personnel que j'ai eu en tant qu'enseignant. Donc la première partie, quand je demandais aux étudiants, quand je leur donnais un sujet, un atelier d'architecture sur le logement, je leur demandais d'aller à la bibliothèque et de faire une sélection des meilleurs projets que l'histoire récente avait produits et que l'on trouve dans des livres où justement le travail des écrivains et des journalistes, c'est de sélectionner les meilleurs projets et puis d'en faire un élément coopératif. Et j'ai vu au cours des années, progressivement, que les projets qu'ils montraient comme exemple étaient de plus en plus médiocres et on montrait des opérations qui étaient tout autour de promoteurs, des choses assez, il faut le dire, assez imbéciles. Et le fait, c'est que les étudiants, et j'en ai eu la preuve par les bibliothécaires, allaient de moins en moins à la bibliothèque et trouvaient sur Google les réponses. Et Google, c'était les occurrences les plus fortes, n'étaient pas donc ce système de sélection que faisait le livre et qu'apportait la bibliothèque, mais ils amenaient les choses qui étaient les plus populaires. Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, dans mon côté optimiste, eh bien justement, si j'interroge, et ce que je fais d'ailleurs, l'intelligence artificielle de trouver la sélection des livres, elle va me donner les ouvrages de référence par rapport à ma question, ce que Google ne faisait pas, parce qu'il ne faisait que vous donner ce qui était justement le plus populaire et pas ce qui était le plus sélectif. Donc, on va terminer sur cette note positive, bon, pour notre année, et je vous renouvelle mes vœux pour la nouvelle année. À la semaine prochaine.